Je donne maintenant la parole à M. Domenico Fabris, qui enseigne à l'Université de la Basilicata et au Conservatoire de Naples. Là aussi, sa bibliographie est immense et je ne cite que quelques-uns de ses ouvrages récents. Music in 17th Century Naples, l'œuvre de Francesco Provenzale, ou encore Andrea Falconieri Napoletano, un liutista compositore del Seicento, puis le travail philologique d'édition de textes, et notamment les œuvres de Fabrizio Dentice, 1530-1581, et encore un volume d'ensemble sur ce même auteur, mais aussi les aspects publics, nous l'avons vu et nous le verrons dans la question de l'oratoire de Filippo Neri, istituzioni assistenziali e congregazioni di musici a Napoli nell'Italia meridionale durante il viceregno spagnolo, ou alors, sous un autre aspect et plan, mecenati e musici, documenti sul patronato artistico dei Bentivoglio di Ferrara nell'epoca di Monteverdi, 1585-1645. Donc, il y a, et puis, bien évidemment, les intavolature per tastiera e liuto de Andrea Gabrieli ou encore Cosimo Bottegari, il libro di canto e liuto. Donc, il y a en même temps l'édition, la philologie musicale, l'interprétation de cette période si riche de Naples à l'Italie du Nord, en passant par Rome. Et aujourd'hui, M. Fabris nous propose, et d'une certaine manière, c'est vraiment un exposé charnière entre le premier et le troisième de cette matinée, la musique à Rome dans les cercles autour de Caravaggio.
Merci, professeur. Je m'excuse, on a quelques problèmes pour retrouver les images. Donc, on doit imaginer les images, probablement. Donc, je dois, en tout cas, faire des références, quelque chose que, probablement, tout le monde connaît bien. Merci pour cette invitation. C'est toujours très important de croiser les regards pour les musicologues avec les autres spécialistes. Et aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui a à faire avec la thématique de ce colloque, mais d'un autre côté. Le 20 octobre 1599, le corps de Sainte Cécile fut retrouvé à Rome pendant des travaux de récognition du tombeau dans l'ancienne basilique dédiée à la Vierge Martyre au quartier de Trastevere. En seulement quelques heures, une foule excitée se reversa dans le quartier pour adorer la Sainte, découverte juste à temps pour le début de l'année du jubilé. La sculpture de Stefano Maderno, lui-même présente à l'ouverture, réalisée très vite et placée au début du 1600 dans la confession de l'altare maggiore de l'église où avait été vu le corps de Cécile, avait été commissionnée par le même cardinal Sfondrati, titulaire de l'église, qui avait ordonné et suivi personnellement l'opération de fouille pour retrouver le corps de la Sainte. Une récente étude de Alessia Lirosi dans les mélanges de l'École française de Rome, parue en 2010, reconstruit les phases et les raisons de cette opération de propagande très importante dans le projet de revival de l'image du christianisme des premiers siècles, implanté par la contre-réforme à Rome et animé par le nouveau pape Clément VIII Aldobrandini. Le cardinal Sfondrati était le neveu de Niccolò Sfondrati, pape sous le nom de Grégoire XIV, qui mourut en 1591. Il avait été formé dès l'âge de 17 ans chez le père de la Vallicella, où il devint ami de Saint Philippe Neri. Je choisis cet épisode entre centaines d'autres de la Rome contre-réformiste à la fin du siècle, pour sa connotation symbolique par rapport à la musique, car Sainte Cécile est la protectrice de la musique et des musiciens, et la fête était célébrée il y a jusqu'à quelques jours, le 22 novembre. À l'époque de la découverte du corps de Cécile, la congrégation des musiciens de Rome existait déjà depuis 15 ans. Elle avait été fondée par le pape Sixte Quint en 1585 sous la protection de la Vierge Marie et de 200 musiciens de l'histoire de l'Église, Saint Grégoire et Sainte Cécile, hébergés dans l'église de Sainte-Marie ad Martires ou Panthéon. Il s'agissait d'une corporation de défense des droits de la catégorie des professionnels de la musique actifs à Rome. Palestrina étant mort en 1594, on retrouve à la fin du siècle les Anerio, Nanino, Luca Marenzio, ce dernier décédé en août 1599. La congrégation s'opposait à l'autre corporation très puissante, celle de chanteurs pontificaux de la Cappella Sistine. Cette dernière institution avait été réformée par Sixte Quint Peretti en 1586 et comme nous l'explique Claudio Anibaldi dans son livre dédié à l'histoire de la chapelle pontificale des années 1590 au 1644, pendant la dernière décennie du XVIe siècle, les membres de la Cappella Sistina avaient commencé une autoréglementation qui venait d'une forte coscienza identitaria dei suoi componenti in quanto élite professionnelle unica al mondo. Suite donc à la réforme de Sixte Quint, les 21 membres de la Cappella Sistina avaient le droit d'élire entre eux le maître de la chapelle pour la durée d'un an et surtout étaient soumis à la direction d'un cardinale protettore nommé par le pape. La réunion au début de l'année des chanteurs de la Sistina était très importante pour les exigences de autodétermination, comme le prouve la notation des punti pour les membres absents. Le cardinal protettore était, depuis la fondation de cette charge, le cardinal Antonio Maria Gallo, mais le vrai superintendant de l'organisme, en tant que vice-protettore, avait été, depuis 1590, le cardinal Francesco Maria Del Monte, qui deviendra officiellement protettore della Sixtine seulement à la morte de Gallo en 620. Le longue période d'absence de Rome de Gallo, par exemple du 1591 à 1594, quand il avait été nommé évêque de Osimo, avait en fait donné à Del Monte un contrôle presque total de la chapelle papale, comme démontré par plusieurs invitations aux chanteurs pontificaux pour des exécutions bien payées dans des différentes églises de Rome ou dans son palais privé. La personnalité de Francesco Maria Del Monte est bien connue par les spécialistes d'histoire de l'art, surtout pour sa protection décisive dans les premières étapes de la carrière de Caravage à Rome. Franca Kamitz avait proposé en 1982 quand des luthistes de Merisi, peintes pour Del Monte, avant la fin du siècle, aurait pu être le portrait d'un castrat, l'espagnol Pedro Montoya, un chanteur de la chapelle pontificale qui avait été au service privé de Del Monte. Je cite « Il Montoya castrato che sta con Monte » selon une lettre d'Emilio de Cavalieri datée 18 décembre 1599. La proposition de Kamitz, douteuse et prudente, a été acceptée comme certaine par la plupart des historiens d'art tout le long des trois décennies suivantes, et on retrouve presque partout dans la bibliographie récente sur Caravage que les luthistes peintes par Merisi seraient sans doute le castrat Pedro Montoya. Je me suis opposé à cette interprétation dans trois récents articles sur Caravage et la musique que j'ai publiés depuis 2012, où j'introduis le point de vue du musicologue dans cette histoire très énigmatique. Avant d'aborder la question plus au fond, j'anticipe qu'il n'y a pas de raison spécifique pour privilégier Montoya, dont on ne connaît pratiquement rien au dehors de son service à la Sixtine, plutôt qu'un d'autres de ses camarades chanteurs, castrat ou pas, que le vice-protecteur Del Monte pouvait utiliser à son aise dans les mêmes années. Par exemple, pendant la carême de 1595, Del Monte prêtait à la Confraternita del Crocifisso à Saint-Marcellin, des orgues, sept chanteurs pontificaux, avec parmi eux Montoya, bien sûr, et les altos Benigni, Conforti, Crescenti et Manni, rétribués entre 20 et 50 écus chacun. La mode des soprano castra à la Sixtine et par conséquence à Rome était liée, comme Annibaldi nous le rappelle, au symbolisme de la voix aiguë, claire comme la lumière. Et dans ce domaine, il y avait une suprématie des castrats espagnols jusqu'à la fin des siècles. Aux trois espagnols déjà au service de la chapelle Sixtine, Soto, Vázquez et Santos, le pape avait ajouté en 1592 des autres castrats de la même nation, Francisco Espinosa et le déjà nommé Pedro Montoya. Mais en 1599, le dernier espagnol recruté, Diego Lorente, fut rapidement licencié avec les deux Italiens qui avaient été admis avec lui, Rosini et Racchio. Et les soprani acceptés à la Sixtine au nouveau siècle, à l'exception d'un Français, Jean Grisard, en provenance de Venise, seront tous exclusivement italiens. J'ai voulu démontrer l'abondance de candidats à côté de Montoya qui pouvaient être immortalisés à cette époque comme le luthiste chanteur de Caravage. Mais je doute fort que ces personnages puissent être un vrai portrait d'un musicien. Je pense plutôt à une reconstruction symbolique d'une scène musicale, exactement comme les autres trois tableaux au sujet musical de Merisi, que je ne peux pas vous montrer, mais vous connaissez sûrement très bien, et je dois seulement vous rappeler l'existence de chacun. Pendant qu'en 2012, le premier de mes articles sur Caravage et la musique était en cours de publication, une nouvelle recherche sur les documents de l'archive d'État de Rome sur les premières traces de la présence de Merisi dans la ville éternelle a vu le jour. On en était arrivé à la même conclusion, suivant des parcours différents. Moi, j'avais essayé de démontrer que Caravage n'avait pu réaliser les quatre tableaux au sujet musical qu'on connaît de lui que dans la même ambiance et avec un délai très court, car il y a des éléments très évidents pour un musicologue des connexions d'objets entre les quatre tableaux. Les instruments et les partitions sont les mêmes, reproduits en conditions d'utilisation semblables. Probablement les musiciens aussi sont dans les trois cas les mêmes, au moins les visages qu'on a choisis. La datation traditionnelle qui éloignait le premier tableau, le concert des Musici, datait pour la plupart des historiens d'art aux années 1582-1583, et du dernier, Amour vainqueur, daté entre 1600 et 1602, donc 10 ans, me semble impossible. Les documents publiés dans le catalogue de l'exposition Caravaggio à Roma, Una vita dal vero, en 2011, et dans le numéro spécial Caravaggio de la revue Roma moderna et contemporanea, sorti en 2012, confirmaient que le peintre lombard était arrivé à Rome beaucoup plus tard qu'on le pensait, non pas en 1592, mais peu avant le printemps 1596. Si cela est prouvé, toute la datation traditionnellement assignée aux premières œuvres de Caravage à Rome devrait être modifiée et compressée dans les années 1596 à 1600, le même que j'avais suggéré pour les tableaux de sujet musical. Plus tard, avec la complicité de l'historien d'art anglais Clovis Whitfield, j'aurais mis en discussion aussi soit les connexions de quatre tableaux avec le mécénat, trop vite établi, que le sens et la signification profonde de tout l'ensemble que je considérais un cycle musical de Caravage. On a toujours mis en évidence l'importance du cardinal Del Monte comme le grand mécène qui aurait découvert les talents de Caravage, favorisant ses premières commandes publiques importantes, comme la Cappella Contarelli à Saint-Louis des Français. C'est en fait sous sa protection que Merisi, parmi ses premiers tableaux, réalisa les quatre sujets musicaux qu'on connaît, considérés de grands chefs d'œuvre. Mais on a probablement exagéré la compétence musicale de ce mécène pour justifier la complexité et la nature de cette production unique dans la carrière de Caravage. Francesco Maria Bourbon del Monte, né à Venise en 1549, d'une noble famille toscane apparentée de loin avec les Bourbons de France, avait fait carrière à Rome comme secrétaire du cardinal Ferdinand de Médicis et devint cardinal à son tour en 1588, avec un pouvoir économique qui lui permit de protéger les arts et surtout les intérêts croisés du grand-duc de Toscane et de la France. Sa résidence fut le Palazzo Madama, aujourd'hui siège du Sénat italien, où il fit son entrée en 1589 après une restauration aux frais des Médicis qui lui donnèrent aussi un premier groupe de tableaux et décorations pour souligner son statut. Dans le palais, le cardinal établit très tôt un salon de musique et un atelier pour les peintres. Son biographe plus important, Zygmunt Wasbinski, semble étonné de découvrir que déjà 3 semaines après son arrivée dans le palais, Del Monte avait annoncé dans une lettre du novembre 1589 à Ferdinand de Médicis, je cite, « Oggi Montalto è stato un pezzo qui in casa, dove ho fatto in una stanza mettere cimbali, chitarre, il chitarrone ed altri strumenti, e ha preso tanto gusto che dice volermi favorir spesso in venire a cena meco. » Montalto était le plus important et le plus mélomane des cardinaux en ces temps à Rome, neveu du pape Sixte Quinte, dont on parlera ensuite. Del Monte avait donc déjà une bonne connaissance de la musique que sûrement il pratiquait en personne, mais au niveau amateur. Il jouait sûrement de la chitarrilla, comme il confesse dans une lettre. Son amitié avec Emilio de Cavalieri, le seul qui nous donne dans ses lettres des renseignements détaillés sur les intérêts musicaux du cardinal et sa présence au premier spectacle d'opéra mis en scène à Florence sous la direction du même de Cavalieri, ont favorisé la déduction un peu simpliste de la plupart des historiens d'art que Del Monte aurait joué un rôle dans l'établissement du goût pour la musique moderne à Rome, dont les tableaux comme le concert des musiciens et les luthistes seraient un espèce de manifesto. Certainement, De Cavalieri est un personnage de premier rang dans l'histoire de la musique, et ce n'est pas un hasard s'il produit à Rome, dans l'année jubilaire 1600, le premier spectacle semblable à un opéra, mais au sujet spirituel, la rappresentazione di anima et di corpo. Mais nous n'avons pas de renseignements précis sur des activités musicales continuelles dans le palais de Del Monte, ni dans des églises sous sa protection pendant les dernières années du XVIe siècle, à l'opposé d'autres cardinaux de l'époque. Et on verra que l'analyse du contenu des sujets musicaux peints par Caravage contredit la vision moderniste de la musique. Autre simplification effectuée par les historiens d'art, bien sûr compréhensible, et l'association entre les tableaux musicaux de Caravage et le salon ou gabinetto de musique cité. Il n'y a aucune évidence que la colocation des tableaux des musiciens et du luthiste dans ce lieu où le cardinal avait réuni ses instruments, clavecin, guitare et probablement aussi des luths, et le seul chitarrone, témoignage précoce en 1589 d'un instrument expérimental qui ne figure pas dans les tableaux de Caravage. Récemment, on a proposé une nouvelle hypothèse pour la destination au moins de musiciens et de luthistes dans le décor du Casino della Vigna Ludovisi al Pincio, acheté par Del Monte et transformé par lui en refuge isolé et tranquille pour ses études de philosophie naturelle et d'alchimie. Ce palazzetto Del Monte était dans le coin sud des jardins appelé plus tard Villa Ludovisi à la Trinità dei Monti, l'un des points plus hauts de la ville entourée de vignes. Dans ce lieu, comme on a découvert récemment, le plafond de la chambre premier étage, le Camerino, fut décoré par Caravage lui-même avec des dieux qui représentaient les éléments, une idée tirée du studiolo de François Ier de Médicis à Florence, pleine de symboles alchimiques. Déjà Franca Kamitz, Maurizio Marini et plus récemment Clovis Whitfield ont proposé que les 2 tableaux des musici et du luthiste auraient pu être placés sur les murs immédiatement sous les plafonds et que leur chambre devait être utilisée pour faire de la musique. Avec différentes motivations, je considère plus probable une colocation de ce que j'appelais le cycle musical de Caravage entière, de toutes les 4 peintures au sujet musical, dans ce casino al Pincio, plutôt que dans la résidence officielle de Palazzo Madama, où néanmoins restait officiellement la chambre de musique avec les instruments. Il est arrivé le moment d'abattre mes cartes. Comme j'ai déjà exposé dans d'autres publications, je considère non seulement le concert des musiciens que vous devez imaginer. Et au moins un des luthistes en circulation, mais aussi les autres deux sujets musicaux, le repos pendant la fuite en Égypte et Amour vainqueur, tableau exécuté par Caravage dans les mêmes années pour le cardinal Del Monte ou bien pour son entourage. Bien que le repos ait été associé à la commande de Vitrice et qu'Amour vainqueur se retrouve sans doute dans la collection de Vincenzo Giustiniani, il est possible que ces tableaux soient nés dans l'atelier de Del Monte avant leur destination finale. J'avais intention de vous montrer les analogies qui justifient ma définition du cycle musical de Caravage, mais je peux faire confiance sur votre mémoire. Donc, si on compare les quatre tableaux, on a en commun quelques éléments. On commence avec les personnages. Dans le concert des musiciens, vous devez imaginer un luthiste au centre, un chanteur réfiguré vu aux épaules et qui regarde le luthiste, et en premier plan des cahiers de musique et un violon déposés sur la table. Derrière, un visage qu'on a identifié peut-être avec celui de Caravage même, qui joue le cornetto, et à la gauche, un autre personnage, un cupidon avec des ailes qui touche des raisins, des grappes de raisins. Et donc, le luthiste est sûrement le même qu'on a reproduit seul dans le deuxième tableau, qui c'est le luthiste qui chante et joue le luth avec des cahiers de musique devant lui, un violon sur la table devant lui, et des fruits à son côté. Et il y a deux types différents. On a changé un peu d'éléments dans les deux types. Le type qui on connaissait déjà comme l'archétype dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, et l'autre qu'on a reconnu plus tardivement à New York, qui était dans les collections, prêtées à la collection du Metropolitan Museum jusqu'à l'été, et maintenant retourné dans la situation privée originelle, très confusée. Je suis convaincu qu'il existe au moins un 13e luthiste qui est maintenant dans une collection privée à Londres et qui montre une confusion d'éléments entre les deux tableaux précédents, parce qu'il y a une carafe qui n'existe pas dans le luthiste de New York, mais qui existe dans le luthiste de Saint-Pétersbourg. Donc, seulement pour vous donner des idées qu'il y a des choses qui retournent et qui reviennent dans tous les tableaux. En plus, il y a les instruments qui sont les mêmes. Il y a un type de luth qui c'est un luth sûrement pas plus en usage à la fin du XVIe siècle, très vieux, et un violon qui n'est pas plus en usage à la fin du XVIe siècle, c'est la même époque du luth, et les cahiers de musique sont des parties séparées, copiées à la main à partir d'imprimés de la première moitié du XVIe siècle. Donc aussi la musique est très vieux. Et ces éléments sont en commun aussi avec les autres deux peintures du cycle, c'est-à-dire le repos de la fuite en Égypte montre le même violon qu'on a vu dans le précédent tableau, joué par un ange qui est réfiguré des épaules, exactement comme le chanteur dans le premier, et c'est probablement le même personnage avec la même intention réfigurative. Et le quatrième, l'ange de Amour vainqueur montre enfin les deux instruments, les luths et les violons en terre, abandonnés, mais sont exactement les mêmes, avec des cahiers de musique qui sont aussi les mêmes, même époque. Et donc ce cycle, je considère conclu avec ces derniers tableaux. La plus remarquable des coïncidences dans les quatre sujets musicaux du cycle de Caravage et que la musique ne peut pas être jouée pour de différentes raisons. Les instruments sont démodés, cassés ou inutilisables. Le violon, par exemple, a l'archet inséré dans les cordes. Le luth est reproduit déformé probablement à cause du moyen de utilisation de cette machine qu'on connaît très bien de Caravage aujourd'hui pour voir les perspectives. Mais c'est vraiment pour un luthiste d'aujourd'hui, c'est une chose très difficile à imaginer, un instrument qui peut être joué de cette manière. Et aussi, il y a surtout dans la dernière peinture les signes que les instruments sont cassés, sont vraiment abandonnés et les cordes sont hors système. La musique aussi est démodée, un demi-siècle en retard, exécutée d'une manière impropre. Les compositions vocales n'ont pas de texte, par exemple, ou sont jouées par un violon dans le repos. C'est la seule... C'est vraiment bizarre de voir qu'un violon joue une partie séparée d'une composition quatre voix sacrée dédiée à la Vierge et il n'y a aucune motivation réaliste. Le joueur est efféminé, un castrat selon l'interprétation de Frank Kamitz, mais pas nécessité qu'il soit un castrat, utilise une partie séparée de bassus, donc une voix de castrat qui utilise une partie séparée de bassus. On a interprété ça comme une évidence que le luthiste était le témoignage d'une pratique musicale très à la mode, très moderne, l'utilisation de la monodie accompagnée avec la basse continue. Et donc jouer la basse comme au XVIIe siècle, on pouvait improviser un accompagnement sur la partie de basse d'un air monodique. Mais c'est impossible, c'est un madrigal de Arkadelt de la première moitié du XVIe siècle et n'a rien à faire avec la pratique du basso continuo. Au moins, on devait utiliser une pratique que nous appelons basso seguente, c'est-à-dire qu'on devait utiliser toutes les autres parties pour reconstruire le contrepoint. Et c'est vraiment pas réaliste du tout au point de vue de la musique. Il n'y a aucun effort d'être réaliste dans la reproduction de ces situations sonores impossibles et certainement pas d'allusion à une musique moderne dont Del Monte serait le porte-drapeau avec l'aide d'Emilio de Cavalieri et de la cour de Florence. Sans doute, on devrait abandonner la théorie d'un choix autonome de Caravage dans ce type de sujet en relation à une supposée compétence musicale que Sibylle Ebert Schifferer a récemment proposé sans aucune évidence, excepté un document qui cite deux instruments dans l'inventaire des propriétés de Caravage restées dans sa maison à Rome en août 1605, une chitarra et une violina. Si on interprète la dénomination chitarra comme chitarra italiana, qui était vraiment un instrument de la famille du luth et pas de la guitare espagnole, qui était l'instrument qu'on connaît aujourd'hui comme guitare. Il s'agit des mêmes instruments, probablement vieux et inutilisables, présents dans les cycles musicaux que Caravage pourrait avoir conservé comme un cadeau ou comme modèle pour étudier la position d'objets dans la perspective ou pour d'autres raisons, mais certainement pas pour jouer de la musique à la maison. Il reste à comprendre l'essence du cycle musical de Caravage. Sûrement, Del Monte ne fut pas le seul protagoniste de ce que j'appelais un jeu de commanditeur. Les nouveaux éléments dérivés de la proposition des datations plus tardives sur l'arrivée à Rome de Merisi, peu de temps avant la carême 1596, aident à réduire la période de composition du cycle et à identifier les possibles participants au jeu de commanditeur. Il est très intéressant que le probable premier contact de Caravage à Rome fut avec le milieu dévotionnel et d'accueil aux pèlerins dont ce colloque s'occupe particulièrement. Il s'agit de la Santa Trinità dei Pellegrini, une institution où logiquement pouvait s'adresser un jeune émigré extrêmement bisognoso et ignudo, comme Caravage décrit par Bellori. Je dois à Clovis Whitfield cette indication très intéressante. Comme Noël O'Regan l'a démontré dans de nombreux travaux et surtout dans son livre publié en 1995, La Arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini était une institution de charité fondée par Saint-Philippe Neri, où le rôle de la musique était très important, suivant les préceptes de la contre-réforme. Cette institution est la seule qui montre une liaison entre Palestrina, les plus importants musiciens de Rome à l'époque, et l'oratoire de Saint-Philippe, car Palestrina était l'un des maîtres engagés par la Trinità dei Pellegrini avec des chantres de la chapelle pontificale, confirmés par les recherches de Jean Lyonnais. Protecteur de l'Arciconfraternita dei Pellegrini avait été le cardinal Médicis, substitué en 1588 par le cardinal nipote Montalto, en contact, comme j'avais anticipé, avec Del Monte, qui à son tour était le vrai protecteur de la chapelle pontificale. D'autres futurs mécènes de Caravage étaient engagés dans le gouvernement de la confrérie de la Trinità dei Pellegrini, le Crescenzi ou le frère Mattei, par exemple. Parmi les amis du peintre, Prospero Orsi habitait en face de la Trinité des Pellegrini et Onorio Longhi était le fils de l'architecte qui avait construit l'église de la Trinità. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation que Caravaggio pourrait avoir commencé sa résidence à Rome à la Trinità des Pellegrini. L'occasion de changer sa vie pour Michelangelo Merisi da Caravaggio fut l'invitation à travailler pour Del Monte, probablement dans le Palazzo Madama, en 1597. Il est possible que les amis et collègues de Caravage, et surtout Prospero Orsi, aient commencé à diffuser les premiers essais de décoration aux petits sujets de Merisi. Je pensais qu'il, venant de Milan, pouvait avoir copié des modèles, les typiques modèles de son maître à Milan, surtout les tarsie, avec les luttes décorées typiques de la situation milanaise, et donc avait montré cette capacité incroyable de reproduire fielement des instruments de musique qui pouvaient avoir attiré l'attention de Del Monte. Il est possible donc que le cardinal Del Monte, intrigué par ses esquisses, peut-être aussi renseigné par le cardinal Montalto, qui était protecteur de la Trinità, et donné au peintre lombard la possibilité de faticosamente uscire dalla povertà mediante il lavoro assiduo. À ce point-là, je ne peux pas compter sur des documents, je dois donc poursuivre d'une manière inductive. Je crois que Del Monte avait la double compétence artistique et musicale suffisante pour juger la maîtrise de Caravage parfaite pour un projet qu'il partageait avec d'autres personnages passionnés comme lui par la musique. Grâce à la correspondance de Del Monte et à quelques autres fragments de documentation, on retrouve des traces pour établir l'existence d'un petit groupe d'importants prélats mélomanes qui partageaient les soirées ou les dîners à Palazzo Madama avec des références à la musique. Le premier personnage dans le groupe est bien sûr le cardinal Montalto, qu'on avait retrouvé invité pour une soirée musicale à Palazzo Madama déjà au début du séjour de Del Monte en 1589. Alessandro Peretti Damasceni di Montalto, neveu de Sixte Quinte, élu par son oncle cardinal en 1585, a été considéré le plus grand mécène de la musique active à Rome à la fin du XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe. Entre les plusieurs et superbes résidences qu'il possédait, il habitait non loin de Del Monte, dans le Palazzo della Cancelleria, et possédait aussi un petit palais à la Vigna Montalto, avec un jardin secret dans le point haut de la ville, aussi comme Del Monte. Grâce au livre que lui a consacré John Hill, par Oxford University Press, on connaît très bien le patronage musical du cardinal Montalto dans les deux décennies qui précédaient sa mort, en 1623. Malheureusement, les documents de famille conservés aux archives capitolines de Rome, que moi-même j'ai examinés, nous donnent très peu de renseignements pour les années qui nous intéressent ici, les trois années finales du siècle XVIe. L'amitié avec Del Monte, témoignée par un échange de lettres et d'autres petits renseignements, continua jusqu'à sa mort, avec de fréquents voyages de ce que Wadzwinski appelle un tandem de cardinaux, qui partageaient beaucoup d'occasions artistiques. Ils furent ensemble à Ferrare, Venise, Mantoue, à Naples, probablement ce dernier voyage en contact avec le prince Gesualdo de Venosa, et peut-être avec un plan pour contacter Caravage alors à Naples. Mais surtout, nombreux étaient les voyages ensemble à Florence, où ils avaient assisté au premier spectacle d'opéra. Mais le duo était plutôt un trio. En fait, après la mort de Sixte Quinte et sa création en cardinal nipote de Clément VIII, le cardinal Pietro Lombardini avait rejoint les autres deux prélats, se produisant à son tour dans une intense activité de patronage musical. Par exemple, en 1595, c'est la vigne d'Aldobrandini le lieu où il organise un banquet avec Montalto e Del Monte, où si fece la musica tutto il giorno. Claudio Anibaldi, dans des articles publiés aux années 80, a étudié dans les détails le patronage musical de Pietro Aldobrandini, qu'il classifie en patronage politique. Fondamentale fut l'expérience en legato pontificio dans la plus musicale des villes italiennes de la Renaissance, Ferrara, dévolue à l'État pontifical depuis 1598 et confiée au gouvernement du cardinal nipote Aldobrandini, qui retourna à Rome l'année suivante chargé des livres de musique et musiciens de l'ancienne chapelle d'Este et aussi de tableaux et d'artistes. Il n'avait perdu l'occasion, bien sûr, d'inviter ses amis Del Monte et Montalto à Ferrara en 1598 pour assister à son triomphe. Il semble donc que dans notre jeu de mécène autour de Caravage, on ne devrait pas compter la plupart du temps avec le cardinal Aldobrandini, car il était absent de Rome pour la plupart du temps. Ce n'est peut-être pas par hasard que le premier engagement d'Aldobrandini à son retour à Rome soit dans la musique pour la Trinità dei Pellegrini. Ici, il se pose en concurrence non plus amicale, mais évidemment politique, avec Montalto. La perte de l'esprit du groupe est mise en évidence aussi par la concurrence furieuse des banquets musicaux que les deux cardinaux commencèrent à faire les premières années du nouveau siècle. Bien qu'en 1604, Del Monte indique dans une lettre un retour à l'amitié du passé. Tra Aldobrandino e Montalto si vede molta amorevolezza. So bene che a me costa, poiché domenica vengono tutti a mangiar meco. Au trio des cardinaux mélomanes, Wazbinski ajoute encore d'autres personnages, comme Winter, le cercle d'aristocrates passionnés par les arts dans les années qui nous occupent, les frères Mattei, les frères Giustiniani, les Crescenzi, tous membres du parti florentin et français et tous futurs protecteurs ou estimateurs de Caravage. Jusqu'à récent, la personnalité du marquis Vincenzo Giustiniani avait gardé à l'ombre celle de son frère Benedetto, cardinal de Santa Prisca, et on lui avait attribué le rôle principal dans l'acquisition de plus de 600 tableaux catalogués dans l'inventaire du 1638. Grâce aux travaux de Silvia Danesi Squarzina et d'autres spécialistes, on a constaté que 300 tableaux, y compris les Caravage, étaient déjà dans l'inventaire de Benedetto Giustiniani en 1621, proposant donc une personnalité de mécène bien plus importante qu'on pouvait le penser. Il semble certain que les deux frères genois, après la mort de leur père Giuseppe, étaient actifs comme encore à deux têtes dans les questions artistiques, bien que Vincenzo soit plus jeune de 10 ans. Par exemple, les deux Giustiniani aient favori ensemble les musiciens de Gênes qui arrivaient à Rome, comme le maître de chapelle Simone Molinaro. Deux des sujets musicaux de Caravage sont connus dans la collection de Vincenzo Giustiniani, mais il n'y a aucune évidence sur la réelle date d'acquisition de la part du jeune Giustiniani du luthiste, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, et même de l'amour vainqueur, exposé en public en 1602, mais sans relation immédiate avec le marquis Vincenzo. En tout cas, il est très évident qu'un connaisseur de la musique ancienne et moderne, comme Vincenzo Giustiniani, auteur d'un célèbre traité sur le sujet, aurait bien figuré dans le groupe de mélomanes qui se réunissaient autour du cardinal Del Monte dans son palais Madama. Si on considère les résidences des participants à ces réunions, il est bien évident que la plupart d'eux habitaient dans le palais très proche de Palazzo Madama. Et j'avais une peinture pour justifier cette affirmation. Le Giustiniani juste en face et pas loin du centre symbolique de la France à Rome, l'église de Saint-Louis des Français. Le témoignage sur Caravage avant 1600 nous montre qu'il habitait aussi dans la même zone, au moins pendant un certain temps, dans le palais même de Del Monte. Les relations entre ces groupes de personnages romains sont éclairées par quelques exemples. Luca Marenzio, considéré l'un des plus grands compositeurs de madrigaux de la fin de la Renaissance, avait été au service de la Trinité des Pellegrini dans des différentes périodes et, à travers le protecteur de la confrérie, cardinal Montalto, avait été appelé à la cour de Florence, où il avait connu un noble romain, Virginio Orsini, beau-frère de Montalto, qui le ramène à Rome, où il entre au service cette fois du cardinal Aldobrandini. Autre cas, c'est celui de Ruggero Giovannelli, maître de Saint-Louis des Français, de Giovanni Angelo Altemps, autre important mélomane romain, qui, après une collaboration à la Trinità dei Pellegrini, fut admis à la chapelle pontificale protégée par Del Monte et ensuite accompagna à Ferrara le cardinal Aldobrandini. Mais alors on peut se demander pourquoi le cardinal Del Monte, avec son entourage de premier rang, au lieu de célébrer la musique moderne avec des personnages comme De Cavalieri, Luca Marenzio, Giovannelli, ou bien la musique spirituelle de l'oratorio, très répandue ces mêmes années dans les mêmes cercles en préparation de l'année jubilaire, pensons au Tempio Armonico de Ancina déjà nommé, décide de commissionner à Caravage un cycle de peintures sur un sujet musical aussi archaïque et démodé. Sur cette question, je vais vous déclarer mes conclusions. Et je me réfère pour l'ambiance à la récente publication « Le cardinal de la Renaissance et la modernité » comme quelque chose qui peut justifier un peu tout ce que j'ai essayé de dire sur les cercles des cardinaux à Rome. On considère le retour à Rome de Pietro Aldobrandini depuis Ferrara en 1599 le moment de la naissance d'un renouvellement du goût dans l'art, la littérature et la musique à Rome, fondé sur une forte influence vénitienne et ferrarese. C'est encore Wasbinski à nous mettre sur la vie du rôle joué aussi dans ces changements par le cardinal Del Monte, avec la création dans son palais Madama d'une accademia alla veneziana, grâce à la découverte qu'il avait fait du talent de Carlo Saraceni, arrivé à Rome peu avant le 1599. Il est bien connu le jugement négatif de Baglione, causé par le rôle joué par Saraceni dans la diffusion du caravagisme. J'ai cherché dans les documents Del Monte jusqu'ici sans résultat des indices sur une autre académie dans son palais qu'aurait pu justifier la création du cycle musical de Caravage. Palazzo Madama était considéré le palace cardinaliste le plus visité de Rome. Nelle avanticamere sempre vi è gente che a Montalto ed altri cardinali che non siano dei ministri non ne vedo tanta, nous informé Emilio dei Cavalieri. Mais très peu d'hommes du pouvoir de l'église. La cagione è che non ha negozi e quelli che vengono, vengono per visita. Néanmoins, le groupe d'invités fixes qu'on a déjà nommé, Montalto, Aldobrandini, le Frère Giustiniani, Crescenzi e le Mattei, pourrait bien avoir formé une académie non officielle. Une accademia segreta que je vois mieux dans les milieux discrets de la vigne Alpincio que dans la résidence publique du Palais Madama. Si à Florence une académie similaire avait mis sur pied une discussion sur les musiques des anciennes et des modernes, qu'avait abouti à la création d'une nouvelle forme de spectacle, le mélodrame, à Rome il pouvait paraître étrange que l'élite du pouvoir cardinaliste essaie de discuter des thèmes semblables. La fin de l'âge d'or de la musique du passé, représenté par les vieux madrigaux d'un grand arcadel pour les vieux instruments inutilisables, par les vêtements à l'antica, les gestes des jeunes interprètes. Mais encore, les tableaux de Caravage nous offrent d'autres messages et d'autres symboles plus difficiles à être interprétés, peut-être associés aux études secrètes de Del Monte sur la philosophie naturelle et la chimie. Dans ma reconstruction du jeu représenté par les cycles de Caravage, j'ai essayé de retracer une petite histoire cachée à travers les instruments. Le luthiste au centre du concert n'a pas commencé à jouer les luths. Il cherche l'accord, symbolique de l'harmonie entre oppositions. Dans la représentation suivante, que nous connaissons, comme j'avais dit, en trois originaux, le luthiste seul peut commencer à jouer et chanter d'une manière différente dans les copies que je connais. L'ange du repos récupère les violons que le peintre avait laissés muets sur la table des deux précédents tableaux et joue d'une manière inappropriée quelque chose qui devait être bien plus doucement chanté pour la mère et le fils endormis. Enfin, les cupidons d'un mort vainqueur se moquent de deux vieux instruments définitivement abandonnés par terre, citation de la Sainte Cécile de Raphaël. Qu'est-ce qu'il était arrivé à ce point-là dans cette supposée académie secrète chez Del Monte? Les participants avaient décidé d'arrêter avec un jeu qui était devenu dangereux dans le rapide changement répressif qui préparait l'année jubilaire. Je me limite à observer quelques éléments. Après Hammer Vainqueur, Caravage ne s'occupera jamais plus avec des sujets musicaux, soit un seul instrument de musique ou une partition insertée dans un seul tableau. Les mêmes quatre sujets musicaux incluent les luthistes considérés par la même Merisi selon Baglioni, il più bel pezzo che facesse mai, à part une séance publique pour Hammer Vainqueur, ne furent jamais exposés et ne figurent jamais cités avant les inventaires après décès de Del Monte en 1626 et les inventaires de Giustiniani encore plus tard. Et ce n'est peut-être pas pour l'émotion que les tableaux pouvaient donner aux spectateurs que le marquis Giustiniani avait caché derrière une toile son Hammer Vainqueur. Je commence à croire que d'autres tableaux et d'autres copies auraient pu exister. L'existence de trois probables originaux des luthistes, chacun avec des différences, pourrait être l'indication qu'ils avaient été faits pour des différents membres d'un groupe, cette Académie secrète de Del Monte. En prenant des directions différentes, les tableaux furent altérés avec des rajouts qui devaient confondre les symboles qu'ils cachaient. Si mon hypothèse peut sembler acceptable, l'Académie Del Monte ne serait que l'autre face, privée, des arts de la simplicitas dont ce colloque va dévoiler les modalités dans la Rome du début de Caravage.
Je remercie vivement M. Dinko Fabris pour cet exposé qui est d'une certaine manière lié à la Trinità dei Pellegrini, donc au sujet par lequel nous avons commencé, c'est-à-dire l'oratoire, mais d'autre part nous présente une activité musicale à Rome plus large que celle de l'oratoire et surtout le rôle de ce groupe de cardinaux Montalto et Del Monte Aldobrandini et leur groupe, ce qui est très important pour comprendre la diffusion de cette mélomanie non seulement dans la vie publique mais aussi dans l'activité des peintres, notamment ce que vous avez appelé le cycle musical de Caravaggio. Dans la salle, il y a Victor Skotoiki qui nous a présenté, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans, une interprétation justement du repos dans la fuite en Égypte avec une lecture et même interprétation de la partition que nous trouvons dans le texte. Et donc, il y aura peut-être une discussion entre les deux, puisque vous nous avez fait remarquer que les instruments étaient démodés et hors usage, et même l'un d'entre eux cassé, et que donc il s'agissait de voir pourquoi cette musique à ce moment-là. Mais nous retenons du reste que vous proposez que l'arrivée de Caravage à Rome soit liée justement à l'activité de Trinità dei Pellegrini, ce qui est très séduisant. Et vous avez commencé en évoquant le cardinal Sfondrati, que nous retrouverons cet après-midi dans la vie de Gallonio, la vie de Saint-Philippe Neri, rédigée par Gallonio. Donc, en réalité, nous avons, grâce à votre interprétation historique, retrouvé toute une vie culturelle à Rome, justement dans ces années de la fin du XVIe siècle, qui est très importante et qui lie les activités de cette congrégation de prêtres à la vie publique des cardinaux, des principaux cardinaux romains. Et j'imagine qu'il y aura une belle discussion et peut-être que le Caravage que vous n'avez pas pu montrer va revenir maintenant dans l'exposé de Victor Stoichita. Victor Stoichita est l'un des